Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette fabrique. Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Ce mardi matin, j'entendais à la radio le directeur du théâtre de Strasbourg. Il déplorait le manque de revendications culturelles de la part des Gilets jaunes. Il notait à juste titre que la culture est absente aussi et surtout du discours des politiques en général. Alors comment on fait pour amener cette culture vers les citoyens? Quelles sont les conditions pour diffuser vers ces territoires qui réclament plus? Nous allons tâcher de répondre à cette question avec nos invités ce soir. Claire Bouvard, Éric Chevalier, vous travaillez au théâtre de Bourg-en-Bresse. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Et Lucille Claire, vous faites partie de l'équipe permanente de la Fabrique du Revermont. Bonsoir.
Bonsoir.
Claire Bouvard, Éric Chevalier, vous travaillez tous les deux pour le théâtre de Bourg-en-Bresse. Claire, on vous connaissait auparavant pour votre travail à la Maison du Théâtre de Jasseron. Qu'est devenue cette Maison du Théâtre ?
Alors effectivement, avec l'année 2019, il y a eu un petit peu de changement. Pendant 8 ans, effectivement, j'étais à la Maison du Théâtre. Et puis, c'est une structure, alors pour rappeler quand même, c'est une structure d'action culturelle qui travaillait à l'échelle du département de l'Ain, en milieu rural, autour des écritures théâtrales contemporaines et du théâtre d'aujourd'hui. C'est une structure qui était associative, qui est toujours associative puisqu'elle existe toujours pour l'instant. Qui a toujours été fragile dans sa construction, dans ses moyens pour travailler. Et avec les années passant, en fait, la fragilité s'est augmentée on a fait le constat que c'était plus possible de continuer. Ça faisait 1 an et demi que j'étais toute seule et il n'y avait plus les moyens nécessaires pour développer de nouveaux projets. Donc nous avons réfléchi avec le Théâtre de Bourg à un rapprochement, puisque nos structures paraissaient assez complémentaires, qu'on pouvait s'apporter mutuellement des choses. Et donc, au 1er janvier, mon poste a été transféré de la Maison du Théâtre au Théâtre de Bourg. Avec moi, les subventions et les missions de la Maison du Théâtre, c'est-à-dire le travail en milieu rural, le travail avec les habitants et l'action culturelle. Donc vraiment le fait de rassembler des artistes et des habitants pour un travail commun. Là où le Théâtre de Bourg est vraiment sur de la diffusion, de la création, on en parlera un peu plus tard, mais voilà, il nous semblait intéressant que la Maison du Théâtre puisse continuer à développer ses actions au sein d'une structure plus importante.
Est-ce que la théâtrothèque, est-ce que le fonds de texte a suivi ?
Alors effectivement, il y avait un fonds de théâtre, la théâtrothèque. Le fonds a regagné les étagères de la bibliothèque départementale de Prêt, donc qui est la bibliothèque du département de l'Ain. Donc le fonds lui appartenait à la BDP. On l'avait à la Maison du Théâtre, on l'avait en gestion, en animation, en circulation des ouvrages. Et dans ce transfert, la BDP a récupéré les ouvrages, donc ils sont empruntables. Je vous invite à aller à contacter la BDP. Donc il faut contacter la bibliothèque départementale de Prêt, qui est rue Juliette Récamier à Bourg-en-Bresse. Alors il faut leur laisser un petit peu le temps parce qu'ils ont récupéré les ouvrages en décembre. Mais enfin, en tout cas, l'objectif est de pouvoir continuer à emprunter, à lire et à se servir de ces textes. Donc pour rappel, il y a des pièces jeunesse, des pièces adultes, des ouvrages théoriques, des revues. Et puis par exemple des exercices de mise en jeu théâtrale, ce genre de choses. Donc c'est vraiment des ouvrages dont il faut se servir.
C'est une belle richesse qu'il faut effectivement valoriser. Quelles sont les missions qu'ils ont reprises par le théâtre ?
Donc c'est des missions d'action culturelle et plus spécifiquement autour des auteurs, de la question des écritures théâtrales d'aujourd'hui, qui était donc une des spécificités de la Maison du Théâtre. Et puis le fait de développer des projets sur les territoires ruraux. Donc la Maison du Théâtre avait cette habitude d'aller sur les territoires, de co-construire avec des associations, des partenaires locaux, donc de garder cet esprit-là, de développer aussi la place des auteurs au sein d'un lieu de diffusion et de création comme le théâtre. De replacer ces auteurs vraiment au centre, les auteurs d'aujourd'hui qui parlent du monde d'aujourd'hui. Voilà, j'arrive avec cette spécificité là. Maintenant, tout est à construire puisque le transfert est tout frais. On est en train de construire les saisons à venir, la saison prochaine et les suivantes. en espérant aller vers quelque chose d'un peu crescendo, enfin qui va prendre de l'ampleur avec le temps. Voilà, en gros, les perspectives.
La Maison du Théâtre agissait à un niveau départemental, c'était oui. Une structure départementale. Est-ce que la zone d'action du Théâtre de Bourg sera la même ?
Oui, le territoire du théâtre reste départemental, enfin est départemental. Après, il y a une priorité qui est donnée quand même sur l'intercommunalité, enfin la CA3B, et puis les communautés de communes autour, mais le territoire est départemental aussi, oui.
Alors, le rural, c'est votre domaine à tous les deux, Claire et Eric également. Quels étaient ou quels sont les objectifs du Théâtre de Bourg à ce niveau-là, Eric Chevalier ?
Eh bien, les objectifs, c'est effectivement le développement culturel sur le territoire du département de l'Ain. Et donc, au travers de cela, nous avons inventé deux process, deux dispositifs, que sont terrain de jeu, qui est à une échelle départementale, et les petites scènes vertes à l'échelle de l'AGO CA3B.
On peut rappeler les dispositifs, en quoi ils consistent ?
Alors les dispositifs sont très différents. Pour ce qui est des petites scènes vertes, c'est 5 à 6 spectacles consacrés et en visant le jeune public qui sont installés pendant une dizaine de jours pour une dizaine de représentations, voire plus, sur une commune et où les écoles de l'agglo proche, des communes proches, viennent voir le spectacle. Depuis 2-3 ans, nous avons développé aussi l'accès des spectacles installés pour le jeune public vers le tout public pour une représentation en soirée, en profitant ainsi l'opportunité auprès d'un plus large public. D'un autre côté, nous avons donc Terrain de jeu, qui existe lui depuis 12 ans, et qui est un dispositif de spectacle, alors là, tout public, qui est donné sur toutes les communes du département. L'engagement, il est clair vis-à-vis des communes, c'est-à-dire que c'est une démarche partagée, c'est une vraie négociation, une vraie rencontre avec les communes, voire les maires, qui participent financièrement, mais aussi qui collaborent, c'est des vrais partenariats en termes de communication locale, en termes de d'engagement avec des associations locales qui sont mis à dispo, qui s'engagent dans ce processus. Et donc, ces terrains de jeu tournent à peu près sur toutes les communes du département à la demande. Alors, il y en a qui n'en veulent pas, d'autres qui en ont.
Alors là, il s'agit essentiellement de diffusion. Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'action du théâtre vers le rural ?
Alors, alors ça dépend les axes, c'est-à-dire que c'est pas du systématique. Sur terrain de jeu, on peut avoir des actions de médiation, mais comme c'est des vrais partenariats, c'est de toute façon le point de départ sur terrain de jeu, c'est quand même une demande d'un maire et d'une commune, aidée d'une association ou pas locale. Enfin, ça dépend de la dynamique de la commune. Donc il peut y avoir même des résidences, parfois il y a des maires qui participent à cela. Et par contre, sur le dispositif des petites scènes vertes, il y en a aussi, mais c'est moins flagrant et c'est pas la même démarche, c'est moins ouvert, quoi.
Le partenariat donc fonctionne avec les élus, vous l'avez dit, avec les associations, avec les artistes locaux aussi.
Oui, bien sûr. Ça dépend effectivement des spectacles proposés, mais vous faites bien de le rappeler puisque le dernier spectacle qui a fait l'objet de la tournée Terrain de jeu était un spectacle local, puisque c'était une compagnie du département qui a créé un spectacle autour d'une histoire ayant eu lieu sur le département.
Avant la nuit,
c'est-à-dire qui a eu lieu du côté de Mataflon, exactement. Et donc qui a été en plus vu l'histoire de la compagnie, l'histoire racontée, la mise en scène et le dispositif terrain de jeu, ça s'est même développé sur des collèges. Il y a eu des représentations spécifiques auprès des collèges et de la médiation autour de cela.
Alors, ces actions nécessitent des efforts de la part du théâtre en particulier, c'est-à-dire que c'était plus facile de recevoir le public chez soi, vous allez au-devant du public. Pourquoi cet effort à quoi ça sert? Est-ce qu'on ne peut pas se dire, après tout, le théâtre de Bourg, c'est une belle institution et ses portes sont largement ouvertes?
Pourquoi aller vers le rural,
pourquoi
en fait?
Pourquoi aller vers le rural?
Premièrement, c'est plus facile d'accueillir quelqu'un au théâtre de Bourg, loin de là. Quand on se rend sur le territoire, on s'aperçoit que les gens sont bien parfois dans leur commune et que le fait de venir chez eux présenter un spectacle de qualité professionnelle, c'est une vraie reconnaissance du territoire en question, des personnes en question et des personnes qui parfois ne vont pas au théâtre de la ville-centre.
Justement, est-ce que vous avez un regard sur ces publics? Qui sont-ils? Parce que, bon, Bourg-en-Bresse, c'est la ville, mais c'est quand même la ville à la campagne. Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence entre le public qui vient au théâtre de Bourg et le public que vous pouvez rencontrer en milieu rural? Claire?
Je ne sais pas si on peut dire que c'est le même public ou pas le même public. En tout cas, c'est une démarche différente de proximité, d'aller vers, qui permet d'impliquer les gens d'une autre manière. Et du coup, les habitants ou les usagers d'un territoire se sentent investis dans cet accueil d'un spectacle ou d'une action culturelle, il me semble. Et du coup, ça permet de toucher ou d'impliquer des personnes qui ne ferait pas forcément la démarche d'aller au centre-ville de Bourg-en-Bresse pour différentes raisons, soit de distance, soit de difficultés d'horaire, de peut-être ne se sentent pas concernés. Enfin voilà, il y a différentes raisons qui empêchent les gens de pousser les portes d'un lieu culturel. Mais c'est vrai que d'aller vers, il me semble que c'est ça implique une autre relation et du coup ça permet de toucher d'autres personnes. Après, à savoir, est-ce que les gens sont différents à la ville ou à la campagne? Je sais pas, il y a tout partout.
Il doit y avoir des études sociologiques là-dessus, oui, on va se renseigner. Sûrement. Les auditeurs, allez dans les bibliothèques, renseignez-vous.
Ces spécificités entraînent-elles donc des actions particulières dans le détail, dans le concret?
Alors pour moi, ça nécessite d'être dans une démarche de connaissance de l'autre, enfin de ceux vers qui on va. Donc de se renseigner un petit peu sur ce qui existe sur ce territoire, de solliciter une commune ou des associations ou souvent les bibliothèques. On se rend compte que le premier acteur culturel en milieu rural, c'est une bibliothèque, alors soit avec des bénévoles, soit avec des professionnels, mais enfin en tout cas c'est souvent le premier ancrage culturel. Et du coup voilà, c'est vraiment se dire qu'il faut créer une relation d'échange et de co-construction. C'est vrai qu'à la Maison du Théâtre on parlait de co-construction, vraiment dans l'idée on fait ensemble.
Quels sont les futurs projets en lien avec le rural, des dates pour terrain de jeu à venir, Éric Chevalier?
Malheureusement, je ne peux rien vous annoncer parce que c'est en pleine construction. Donc, tout est en construction.
Pas de surprise à nous révéler comme ça en exclusivité. Un territoire.
Pas pour le moment, je suis désolé. L'organisation fait que les surprises ne sont pas forcément les bienvenues. Donc, nous sommes en réflexion. Nous travaillons pour plus d'efficacité sur ces territoires.
Certaines compagnies ou structures s'installent directement au cœur du rural. C'est le cas de la fabrique du Revermont.
Oui, Lucille Claire, vous êtes salariée permanente de ces structures. Quelle est la mission de la fabrique du Revermont?
Alors les missions en fait sont multiples parce que ce bâtiment qui donc s'est installé à Simandre-sur-Suran, le bâtiment a été acheté en 2017 et est en cours de rénovation, accueille on va dire quatre grosses missions principales. Bien évidemment une mission culturelle, sans quoi nous ne serions pas là ce soir. On a aussi une mission économique puisqu'on constate qu'il est difficile d'installer son activité économique en rural. Bien souvent on se rapproche des villes pour développer quelque chose. Et notre parole, c'est de se dire qu'on peut aussi rester sur son territoire de vie pour développer son activité. Donc on propose des bureaux partagés qui sont d'ailleurs ouverts depuis le 1er septembre. Et il y a aussi une phase plus touristique, je vais dire, parce qu'il y a un gîte de groupe qui est prévu dans ce bâtiment. Et plus, de manière plus transversale, on a un vrai accompagnement, ou une vraie volonté d'avoir un accompagnement de la vie associative et de la vie locale. Il faut savoir que la Fabrique du Revermont est un lieu qui est porté par une association d'éducation populaire qui s'appelle le MRJC. Et cette volonté de rester dans de l'éducation populaire nous dirige forcément vers de l'animation, vers de l'accompagnement de la vie associative.
Éric, Claire, est-ce que ça pourrait être un lieu avec lequel vous pourriez collaborer ?
Mais bien sûr.
Claire Bouvard, Éric Chevalier, je rappelle que vous travaillez pour le Théâtre de Bourg-en-Bresse. Merci à vous deux pour votre présence. Lucille, vous restez avec nous. On vous retrouve tout de suite après le titre de Logar en concert à la Tannerie le vendredi 1er mars.
Sitting in the sun, waiting for pleasure and fun. I thought when the spring came, you still remembered my name. Coffee and cigarette, thought that time would help me to forget. I wish that spring would come soon and would bring me stars and moon. Spring finally came. Remember my name. Said that I may have changed, that all my questions were strange. Spring doesn't know my name. Spring doesn't know my name. Spring doesn't know my name. As we roam, the street sea says you need time to think, to go out and to drink till the morning brings you back home. Watching the sunset, listening to the time telling lies, I know that soon sun will rise and I won't have any regret.
Vous êtes dans la Fabrique de la Culture sur Radio B, une émission consacrée à la culture dans le rural.
Eh bien justement, Lucille Claire, vous faites partie des salariés de la Fabrique du Revermont qui met la culture au cœur de ses activités. Donc quels sont vos objectifs ?
Alors les objectifs au niveau culturel, ils sont assez divers. Il faut savoir que la Fabrique du Revermont est un outil assez récent dont s'est doté le MRJC, qui est une association d'éducation populaire, comme je le disais, qui est nationale. On a des sections départementales un peu partout en France. Et les fabriques du monde rural sont nées, on va dire, en 2014. Donc c'est encore assez récent, il en existe 4 en France. Et la nôtre a en effet cette spécificité de la culture. Alors, les missions sont diverses. Déjà, on peut rappeler que lorsque le bâtiment sera entièrement rénové, il y aura un espace culturel.
À quelle échéance ?
Alors, c'est difficile à dire parce que ça dépend des financements et des phases de rénovation. On espère que 2021, le gros de la rénovation sera faite. Donc, il va falloir être encore un peu patient. Mais ça ne nous empêche pas de développer nos activités hors les murs. C'est un choix. On a d'ailleurs été accompagné par la CAF notamment pour développer notre activité bien avant que le bâti soit terminé, sinon on risquait d'attendre longtemps. Donc les missions au niveau culturel, elles sont assez diverses. On peut assez facilement rappeler des missions dont le théâtre a parlé, de la diffusion, apporter sur les territoires ruraux des spectacles de qualité. Mais là où on a une attention particulière, c'est autour de la médiation qu'on fait auprès des gens, auprès de la population en milieu rural, qui peut avoir un rapport à la culture assez compliqué parfois, pour la simple et bonne raison qu'on a très peu de structures culturelles en milieu rural, de services culturels. Et donc le travail est d'autant plus complexe que c'est des gens qui en sont éloignés, ne serait-ce que physiquement. En fait, la problématique de la mobilité en milieu rural bloque beaucoup de choses. Donc c'est pas forcément de la volonté des personnes, mais plutôt de la difficulté d'avoir ces services en rural.
Mais en quoi la culture est un levier du développement local ?
Elle est un levier pour beaucoup de choses, parce que le fait d'être un groupe d'humains dans une même pièce ou sur une même place de village pour partager un spectacle de manière pacifique, d'être dans l'écoute, dans l'ouverture, dans la découverte des fois d'une autre culture ou d'une autre façon de voir le monde, rien que ça, c'est un levier majeur. C'est quelque chose qui est très atypique quand on y réfléchit. Ça n'a rien de naturel d'aller s'enfermer dans une pièce noire pendant 1 ou 2 heures pour aller voir un spectacle. Et c'est quelque chose auquel il faut accompagner les gens. C'est pas inné, on l'a tous été d'ailleurs. Pour la plupart, ceux qui sont fidèles à des propositions culturelles, c'est qu'ils l'ont fait jeune ou par l'école ou par d'autres biais, et c'est des leviers de vie en collectivité, tout simplement, en fait.
Donc concrètement, quelles sont les actions que vous conduisez en matière culturelle? Alors, je pense en particulier à la voix des colporteurs et à la tournée des colporteurs.
Alors, en effet, depuis quelques années, la Fabrique du Revermont, qui est conduite par le MRJC, travaille de très près avec la voix des colporteurs, qui est, elle, portée par une association, une compagnie professionnelle qui s'appelle le Quack. Alors, le lien s'est fait naturellement pour la simple et bonne raison qu'on est sur le même territoire, avec la même volonté d'apporter la culture en rural et de travailler avec les associations et les habitants du territoire. La seule différence, c'est que la fabrique est un lieu fixe et physique, et que la voix des colporteurs a cette particularité d'être en permanence en itinérance, donc sur un festival d'une semaine qui bouge d'un village à l'autre. Les deux combinés, en fait, c'est un peu l'outil couteau suisse qui nous permet de faire des choses très différentes. Et donc, ces deux structures ont lancé ce qu'on a appelé la tournée des colporteurs, qui est la rencontre de la fabrique et de la voix des colporteurs, qui a lieu dans l'année. De octobre 2018, ça va commencer en octobre, et qui va aller jusqu'en avril, une fois par mois, et qui fait se rencontrer tout le cœur d'activité du MRJC, qui est l'animation, et le cœur d'activité de la voix des colporteurs, qui est l'activité culturelle réellement, avec des professionnels du milieu de la culture. Et les deux combinés fait qu'on arrive à avoir une médiation qui fonctionne très bien en milieu rural.
Combien de salariés à la fabrique pour gérer toutes ces missions ?
Et c'est là que ça fait moins rire. Le MRJC ne dispose que d'un seul salarié par fabrique. Donc on est 4 en France. Mais avec moi, j'ai la chance d'avoir une équipe un peu plus large, puisque l'activité du MRJC ne se résume pas à la fabrique dans le département de l'Ain. Et donc Laurie Chambard est salariée départementale et s'occupe des missions, on va dire, historiques du MRJC, des séjours l'été ou des temps d'animation pour les jeunes de 13 à 30 ans. Et j'ai aussi avec moi Lucie Bozonnet, qui travaille sur le territoire de la Bresse, puisqu'il y a un diagnostic de territoire qui est en train d'être fait en Bresse pour savoir qu'est-ce qu'on peut développer. Et d'ailleurs, petit coup de pub, ce vendredi-là, on a un diagnostic sur la culture. Donc le sujet de la culture est beaucoup plus vaste que sur le Revermont.
Avec quels moyens fonctionnez-vous alors ? Parce que même si les, les moyens humains sont limités, l'achat d'une maison, d'une grosse maison, une équipe à faire tourner.
C'est conséquent, en effet. Oui. Alors, déjà sur les moyens humains, je précise juste que les moyens humains salariés sont réduits, mais les moyens humains bénévoles sont notre moteur absolu. Rien que sur la tournée des colporteurs, on a monté un collectif de bénévoles où ils sont une vingtaine. Donc on a quand même une force vive qui nous soutient et nous accompagne énormément. Et après, sur les moyens purement financiers, puisque c'est une source aussi impossible à éviter si on veut faire vivre tout ça, on est soutenu sur de l'investissement réellement, sur de la rénovation du bâtiment, beaucoup par le MRJC national qui a vendu des bâtiments à Paris, en région parisienne, pour racheter ces bâtiments en région. Donc c'était aussi une prise de position politique de la part du mouvement de retourner en rural. Et sinon, sur de la rénovation, beaucoup des fondations privées, notamment la fondation RTE, des réseaux électriques qui nous soutiennent sur des phases de travaux ponctuels. Et après, il y a toute la problématique de la vie de l'association au quotidien sur les projets qu'on porte à l'année. Et où là, nous, on a été beaucoup soutenus par la CAF, dont je parlais tout à l'heure, qui nous a labellisé espace de vie sociale. On est plusieurs sur le territoire. La Grange au parapluie est aussi un EVS, un espace de vie sociale. Et ces financements, entre autres, il y en a d'autres. La MSA aussi nous soutient. On a un gros travail de réflexion qui est en train d'être faite avec la CA3B, dont on dépend énormément. Donc voilà, mis bout à bout, ces enveloppes-là nous permettent de travailler et de faire vivre ça.
Pas du tout de financement institutionnel type collectivité locale. Alors, j'entends le partenariat possible avec la CA3B, mais pas d'échange financier, pas de subvention de l'État.
Alors, au niveau de l'État, on a un soutien qui est non négligeable sur les postes, puisqu'on dispose de ce qu'on appelle les postes FONJEP, qui sont des financements ministériels pour permettre aux salariés d'être rémunérés. Donc si, ne soyons pas ingrats, on a des accompagnements ministériels. On est en train de travailler et de réfléchir pour travailler notamment avec les DRAC, les directions régionales des affaires culturelles. Mais sachant que la fabrique, initialement, est plus d'un mouvement d'éducation populaire, ça demande aussi un lien différent, puisqu'on n'est pas originaire du milieu culturel, mais c'est des liens qui peuvent tout à fait être imaginés.
Et au-delà des financements, quelle relation avez-vous avec les partenaires institutionnels ? D'abord les collectivités, les communes, les intercommunalités, et puis les théâtres, le PCC de Bourg, le théâtre de Bourg, ou bien le théâtre d'Oyonnax.
Alors, au niveau des communes, c'est des échelons qui ont des grosses difficultés pour nous accompagner sur le niveau financier, quoique elles sont très soutien de la voix des colporteurs. Qui a un système associatif aussi fragile au niveau financier, donc elles sont soutien. Mais là où elles nous aident vraiment, c'est le lien aux associations locales, c'est faire ce relais-là auprès des habitants. C'est beaucoup de la mise à disposition, mais bêtement, si une commune peut nous éviter de louer sa salle des fêtes, mais nous la met à disposition, c'est un énorme pas, parce que c'est un accueil physique sur la commune. Donc là, on a un vrai soutien. Et après, au niveau des échelons CA3B, département, région, c'est des dialogues qui sont plus difficiles à construire, mais qu'on essaye quand même de maintenir. La CA3B a mis du temps aussi à se mettre en place, à savoir quelles étaient ses missions, ses actions. On a un dialogue assez fort ces derniers temps avec eux pour faire partie réellement de ce futur schéma de la CA3B. Le département et la région sont des échelons beaucoup plus complexes pour nous. On n'a pas réellement de dialogue. Et ensuite, au niveau des théâtres, des EPCC comme celui de Bourg-en-Bresse, tout est à construire, en fait. C'est-à-dire que, à notre sens, on peut être un vrai relais pour eux, comme ce qu'ils développaient tout à l'heure. Éric et Claire parlaient des petites scènes vertes ou du travail avec les populations. Il nous semble qu'on peut être ce relais-là. On peut être cette structure partenaire en milieu rural directement. Mais vu que ces missions-là sont encore toutes récentes, tout reste à construire.
Lucile Claire, vous avez parlé tout à l'heure du MRJC, donc pour mouvement rural de la jeunesse chrétienne.
Eh oui.
Qu'est-ce qu'il y a de confessionnel là-dedans ?
Alors, il faut savoir que le MRJC fête ses 90 ans cette année. Donc, c'est une association qui en a déjà vu de toutes les couleurs, qui, à l'origine, était la JAC, la jeunesse agricole chrétienne. Alors, on n'est absolument pas une association qui fait du prosélytisme. On fait partie de ce qu'on appelle les mouvements d'église, c'est-à-dire qu'on n'a pas de lien hiérarchique avec l'Église de France. On partage surtout ses valeurs, de la solidarité, du partage. On ne cherche pas à avoir une visée confessionnelle. D'ailleurs, dans les jeunes qui participent au MRJC, on a des jeunes qui sont chrétiens, mais des jeunes athées, des jeunes d'autres religions. L'idée, c'est de se dire que on peut chacun développer une forme de spiritualité qui nous est propre. On ne cherche pas à avoir quelque chose de dogmatique envers nos jeunes. Il n'y a pas besoin d'avoir un certificat de baptême pour rentrer dans les activités du MRJC, c'est absolument pas l'enjeu. L'idée, c'est surtout historique. Le C, il est surtout historique.
Et est-ce que c'est pas quelque chose quand même qui peut vous empêcher justement d'entrer dans ces relations de partenariat avec la CA3B, d'autres collectivités ? Parce qu'il y a quand même le mot chrétien dans votre intitulé.
En effet, il faut très souvent montrer patte blanche quand même avec ce C. Après, c'est un exercice qui peut être intéressant. Après, je comprends les réactions des institutions de nous dire qu'ils ont une nécessité de respecter la laïcité en France, et c'est normal, et je trouve ça naturel. Après, bien sûr qu'il y a tout un travail de médiation, là encore, c'est toujours la même chose, c'est comment on crée le dialogue avec eux pour montrer que le MRJC n'a aucune volonté de convertir à tout prix. Comme je disais, on ne fait absolument pas de prosélytisme, et c'est surtout de défendre nos actions et le concret de notre travail.
Merci à Lucile Claire de ces éclaircissements sur la fabrique du Revermont et notamment sur son action culturelle à travers la tournée des colporteurs.
Merci.
Michel, tu as choisi un morceau pour cette émission. Tu nous le présentes ?
Eh bien oui, c'est un extrait du groupe Fat Bastard Gang Band, qui est un groupe lyonnais, et on écoute son titre « Sabrina ».
Ok, we are talking about a girl who is called Sabrina. It could be any girl in the world. It could be you, or maybe you. But anyway, it's Sabrina.
La Fabrique de la Culture sur Radio B, une émission consacrée au rural et à la culture. De nombreuses initiatives existent. Michel, tu es membre du conseil d'administration de La Lune à l'envers, une compagnie qui s'implante vers le rural depuis plusieurs années.
Oui, La Lune à l'envers, c'est donc une compagnie burgienne de théâtre qui propose une douzaine de spectacles vivants, du théâtre surtout. Mais c'est aussi une structure de production et de diffusion. C'est elle qui produit et qui organise, par exemple, le festival Théâtre sur un plateau sur le secteur de Montréveil en été, début août. Et puis, depuis 3 ans, une édition de printemps de ce festival Théâtre sur un plateau en avril sur le secteur de Saint-Amour. Depuis début janvier, La Lune à l'envers est chargée d'ailleurs de mettre en œuvre un projet culturel autour de la salle de la chevalerie à Saint-Amour. Elle répond en cela à la demande de la communauté de communes Porte du Jura sur le territoire voisin du nôtre, au nord, c'est-à-dire qu'elle assure la programmation de cette salle, mais aussi qu'elle y accueillera des résidences et qu'elle souhaite y favoriser la pratique du théâtre amateur. Donc l'intervention en territoire rural, La Lune à l'envers connaît, elle a réussi son implantation sur les secteurs de Montreveil et de Saint-Amour, car au-delà de la bonne fréquentation des festivals, leur politique de faire une place en secteur rural au spectacle vivant, exigeant et accessible, eh bien, recueille la reconnaissance des élus, celle du public et celle des professionnels. La notoriété des artistes, par exemple, qui participent à des festivals, à ces deux éditions du festival en témoigne.
On peut citer des noms, Michel ?
Marie-Christine Barrault, qui en est la marraine, mais aussi Francis Huster, Jacques Weber, Richard Bouringer, Robin Rinucci, Tom Novembre, Christophe Malavoie, entre autres, qu'on a vu ces dernières années. Et d'ailleurs, Francis Huster revient en avril. Donc ce théâtre accessible, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, c'est du théâtre de très bon niveau artistique, à des prix qui restent modérés, et proche géographiquement, mais aussi ouvert à la rencontre des habitants. Cette rencontre peut prendre plusieurs formes, des rencontres entre artistes et publics, des ateliers de création ouverts à tous, et puis une association aux événements des habitants bénévoles. Donc pour l'équipe de La Lune à l'envers, il ne s'agit pas seulement de proposer des spectacles dans de bonnes conditions, il s'agit aussi de vivre de nouveaux événements artistiques culturels avec les partenaires locaux, les partenaires institutionnels, associatifs, économiques et touristiques. Car il n'y a pas qu'en ville qu'on trouve des médiathèques, des écoles, des compagnies de théâtre, des envies d'artistiques, des acteurs économiques, même s'il n'y a pas la même densité. Seulement, ce sont des entités sûrement moins puissantes, plus isolées qu'en milieu urbain. Le partenariat avec elles prend alors tout son sens dès lors qu'il ne les remplace pas, qu'il ne les ignore pas et qu'il valorise leur action et valorise les territoires. Sur le plan économique, les centaines de repas servis durant chaque festival sont par exemple préparés sur place avec des produits locaux. Les hébergements des artistes et des techniciens sont assurés par les structures locales. Et puis la notoriété des artistes et des spectacles contribue à celle des territoires. Donc La Lune à l'envers est d'ailleurs lauréate du trophée Coup de cœur de l'économie sociale et solidaire 2018 qui a été remis le 27 novembre dernier à Lyon. Les prochains festivals de La Lune à l'envers, enfin de Festival Théâtre sur un plateau, c'est à Saint-Amour du 4 au 7 avril et à Montrevel et à Tignia du 1er au 7 août.
Donc le festival en avril avec la présence de Francis Huster, tu as pu l'annoncer, voilà. Pour un spectacle, tu pour peux en spectacle. Dire un peu plus
Sur le spectacle, non, pas encore. Bon, mais la programmation est en cours de publication. Oui.
Ok, donc réservez quand même vos dates en avril avec la venue de Francis Huster. Et puis également une autre structure, mais cette fois-ci à Saint-Julien-sur-Ressouze, hein, qui s'appelle La Grange au Parapluie.
Oui, autre initiative bressane qui est différente, mais qui est complémentaire de la précédente. La Grange au Parapluie, c'est un lieu de diffusion de la culture par le biais de résidences d'artistes, d'échanges interdisciplinaires et d'événements ponctuels tels qu'ils se présentent. L'objectif de cette association Loi 1901, qui a été fondée en 2014, par trois jeunes femmes, avec l'aide de bénévoles. Donc son objectif est de créer du lien avec les publics des villages de leur région et de donner accès à la culture et aux arts plastiques, aux arts vivants en milieu rural. La Grange a été rénovée, enfin c'est un bâtiment qui a été rénové par l'association et qui sert de lieu de résidence d'artistes et de diffusion de spectacles. Mais c'est aussi un lieu d'accueil, de rencontre et de mise en œuvre du lien social. On retrouve ce que vous disiez, Lucille Claire, tout à l'heure, avec sur le Revermont. Ils organisent en particulier des sorties groupées pour se rendre ensemble à des spectacles à Bourg ou à Mâcon, avec des tarifs très réduits, du covoiturage et de la convivialité et des échanges autour du spectacle. La Grange au Parapluie en parle de la façon suivante. Une sortie avec nous, ça se passe comme ça, on t'emmène, on t'offre l'apéro, on finance une partie du prix d'entrée et tu te retrouves aux meilleures places. Par ailleurs, l'équipe de La Grange prépare un programme d'événements festifs ou culturels sur le territoire bressan. Alors dans tous ces exemples qu'on a cités aujourd'hui, on trouve les mêmes traits. Une démarche d'initiative privée, mais à fondement associatif, ça ne vient pas des collectivités, ça vient bien sûr encore moins de l'État, ça vient de groupes d'individus regroupés en associations, ça fonctionne avec des aides publiques qui sont assez limitées finalement, mais qui sont significatives dans une économie de moyens général. Et puis aussi beaucoup de bénévolat qui permet de baisser les coûts, mais aussi d'associer les habitants dans la réalisation collective du projet. Et puis le troisième trait, c'est l'importance du collectif, du lien social qui est recherché à travers l'accès à une culture de qualité et facilement accessible. Alors finalement, c'est une chance pour les collectivités locales concernées, car les retombées sont réelles si ça marche. En termes économiques, un peu, c'est pas négligeable. En termes de notoriété et de valorisation des territoires, c'est sûr. En termes de satisfaction des habitants, qui peut-être auront un peu moins le sentiment d'être oubliés, et puis bien sûr en termes d'enrichissement et d'ouverture que permet la culture.
Lucile Claire, vous connaissez ces deux structures dont on vient de parler ?
Alors oui, surtout la Grange au Parapluie, puisque ils sont espaces de vie sociale comme nous, et ils ont bénéficié, comme la fabrique, de ce qu'on a appelé la FIC. Alors il y a des fabriques, le mot fabrique fleurit de partout, mais la FIC, c'est la Fabrique d'Initiatives Citoyennes, qui était un dispositif de financement ministériel qui malheureusement s'arrête cette année, mais la Grange au Parapluie en a bénéficié aussi. Donc on les a connus via des biais économiques, mais c'est des bons copains, on peut dire.
Radio B. Radio B.
Le point sur les spectacles qu'on a vus. Michel, on était tous les deux, sans s'en rendre compte, au théâtre de Bourg pour voir le Cid.
Au rage, au désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ? Rodrigue, as-tu du cœur ? Tout autre que mon père l'éprouverait sur l'heure. Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles, le passé me tourmente et je crains l'avenir. Bon, alors je m'arrête là parce que je ne vais pas tout réciter le Cid, mais reconnaissons dans ces vers des fleurons de la littérature française et des alexandrins qui tendent à la perfection.
Tu as oublié le « va, je ne te hais point ».
Ah, mais attends, je le réserve pour tout à l'heure.
Pardon, vas-y, continue.
Le Cid, c'est une histoire qu'on apprend à l'école et dont j'avais personnellement gardé un mauvais souvenir. Bah, à 13 ans, qu'est-ce qu'on a à faire des affres d'adultes nobles d'une autre époque qui se demandent comment venger un père assassiné par l'homme qu'on aime. Bah, ça, c'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui arrive quand on a un prof de français qui fait le programme sans donner du sens à la littérature. Mais il y a un antidote. Aller au théâtre et voir le Cid, comme nous l'a proposé le Théâtre de Bourg mi-janvier dans une mise en scène de Sandrine Anglade. Et là, j'ai compris toute la puissance des situations dites cornéliennes, tout le sublime de l'écriture, tout le bonheur que peut procurer un texte très bien servi par un jeu efficace et clair. Alors on trouve l'envie de relire le Cid. La mise en scène de Sandrine Anglade était assez sobre, finalement. Elle s'était débarrassée des accessoires et des costumes d'époque sans tomber dans du contemporain ostensible. La distribution était un peu inégale, j'ai trouvé, mais les deux personnages principaux, Don Rodrigue et Chimène, étaient tenus par des comédiens remarquables. Lui, plutôt petit et presque fluet, je ne sais pas si c'est ton avis.
Exactement.
Mais il avait une puissance de jeu à la hauteur du personnage. Et elle, Chimène, dans une justesse qui faisait ressortir tout le tourment d'une femme sensible, éprise d'amour et confrontée à un monde d'hommes, un monde de guerre et de rivalité, où la justice est celle de la raison d'État. Et donc ce « va, je ne te hais point », si beau, chargé d'amour et d'espoir et d'abandon, il m'a vraiment marqué. Un des mérites de la mise en scène de Sandrine Anglade est aussi de rééquilibrer la place des femmes par rapport aux hommes dans les tragédies à travers les deux grandes figures de l'infante et de Chimène, chacune avec son style. La première a fait le choix du pouvoir et Chimène a fait le choix des sentiments. Et puis il y a la musique des alexandrins, très bien servie par les comédiens, et celle d'une batterie en pleine connivence avec la pulsation du texte. Une batterie bien présente, mais jamais envahissante à mon avis, qui déchire le silence, qui accompagne la vibration des mots et qui scande la montée en puissance d'un monde en guerre ou de cœur en alarme.
Pas grand-chose à ajouter à ton texte, Michel, à part que moi, j'ai pas étudié le Cid à l'école. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Soit mon prof de français était malade, je sais pas. Moi, j'ai eu un peu des difficultés quand même au début. Je me suis dit, waouh, je suis partie pour 2h15 à rien capter à ce qu'il raconte. Et en fait, j'ai très, très vite succombé au charme de la langue, vraiment, vraiment très, très bien servie par les comédiens, comédiennes. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur sur le personnage de l'infante que j'ai trouvé vraiment très beau personnage et très bonne comédienne. On va passer au prochain spectacle, parce qu'on va continuer à aller voir des spectacles. T'as noté des choses, Michel ?
Ben, j'ai noté plusieurs choses. Alors, il va falloir faire des choix. Et jeudi, à Jasseron, donc demain, vendredi à Lens et samedi à Saint-Trivier-de-Courte, un spectacle décapant et tourbillonnant à partir du Roméo et Juliette de Shakespeare à l'invitation du Théâtre de Bourg. Et en même temps, jeudi et vendredi, au Théâtre de Bourg, ils cumulent les spectacles sur les mêmes dates, ils n'ont pas peur, deux représentations de la nouvelle création de la compagnie Arnica, une fable marionnettique pour grands qui promet de belles émotions. Il s'agit de Buffle.
Et du cirque.
Et puis du cirque, avec Court Circuit, une soirée de différents spectacles, 6 ou 8, je ne sais plus, de spectacles courts, un peu partout dans le Théâtre de Bourg. C'est les 8 et 9 février, 2 heures d'émoi et d'étonnement. Et le 9 février, je reviens à la tournée des colporteurs qui passe dans le village de Simandre. Ça commence à 10h par des ateliers d'écho et des échanges conviviaux autour d'un café, jusqu'au soir à 20h avec une scène ouverte à tous les artistes qui en ont l'envie.
Et puis un petit focus sur le Café de la Tannerie. Je rappelle qu'il est ouvert du mercredi au samedi soir à partir de 19h. Une nouveauté repérée, le club Afro-Latino tous les 2 mois. Hein, le prochain, c'est le jeudi 14 février, Michel, si tu veux aller te déhancher.
Ah ben,
et puis quasiment tous les soirs, des concerts gratuits. Ça vaut le coup quand même d'aller faire un tour, ne serait-ce que juste pour voir, par curiosité. Et puis du côté du CPA, atelier et rencontre avec la compagnie de cirque Lonely Circus, ça se passe le 7 février à 14h30 et il est possible donc d'assister à une répétition publique du spectacle. La Fabrique de la Culture, c'est fini pour ce mois-ci. Merci à nos invités. Merci Lucille Claire.
Merci.
Merci à Théophile à la réalisation. Rendez-vous le mois prochain.
Merci Elodie pour l'animation de cette réunion. Théophile, on te retrouve derrière le micro tout de suite. Alors il faut que je vous dise, dans ton émission Shell on Pale, Théophile présente un style musical. C'est nouveau, c'est maintenant sur Radio B.
Et pour cette première, plongez dans l'univers du jazz. À 19h, Vent d'Est, Gégé vous fera danser et Marie célébrera les mariages mixtes. À bientôt et soyez curieux.